Voilà, merci pour ces exhortations. Juste une information qui a une petite erreur dans les annonces tout à l'heure. Il n'y a pas de jeunes samedi soir. Les jeunes, c'est ni d'ados. Voilà. Donc c'est une erreur dans l'annonce. Ouais. Oui, je t'en prie.
Daniel et moi qui devions
Voilà.
faire les groupes jeunes et ados,
Ah,
et
d'accord.
malheureusement on ne
Ouais.
pourra pas, on ne sera pas disponible. On voulait le faire ce samedi, mais on n'a pas pu non plus, donc on s'excuse
D'accord.
les jeunes et les ados.
Voilà. Bon.
Je peux juste faire une annonce
Absolument, oui,
supplémentaire.
vas-y, vas-y. Avec
Si Michael est d'accord, parce que pour le 9 février, il faudrait peut-être juste en parler,
D'accord,
s'il te plaît.
d'accord. Donc ils viennent te voir si s'ils peuvent aider. Si quelqu'un peut. Ouais.
Michael,
Ouais, ou Michael,
oui.
voilà. D'accord. Voilà. Alors je propose qu'on considère quelque chose qui se trouve dans Deutéronome chapitre 29. Deutéronome 29, ça concerne la fin de la vie de Moïse sous cette terre. Et ce sont des paroles que Dieu a données à son peuple dans 28, le long chapitre 28, vous avez les malédictions et les bénédictions qui étaient données, les bénédictions si le peuple suivait Dieu et les malheurs et les malédictions s'il ne suivait pas Dieu. Et dans le chapitre 29, il y a encore des recommandations et Dieu aussi rappelle au souvenir d'Israël ce qu'il a fait. Et j'aimerais introduire d'abord avec quelque chose qui m'a frappé dans ce chapitre. C'est pas l'objet du, c'est pas le thème de la prédication, mais ça donne bien la note de la prédication. Ça donne bien la note de ce que je vais dire après. Lorsque Dieu s'adresse au peuple pour lui donner des recommandations, il utilise bien sûr vous comme pronom personnel. Il s'adresse à son peuple, donc il dit vous ferez ceci ou vous n'oublierez pas, etc. Et donc vous avez ça par exemple au verset 6, je prends là le verset 6 parce qu'il est juste avant ce qui m'intéresse. Vous n'avez point mangé de pain, donc il rappelle ce qui s'est passé avec le peuple dans le désert. Vous n'avez bu ni vin ni liqueur forte afin que vous connaissiez que je suis l'Éternel votre Dieu. Vous êtes arrivés dans ce lieu. Sion, roi de Hesbon et Og, roi de Bazan, sont sortis à notre rencontre pour nous combattre et nous les avons battus. C'est Dieu qui parle. Et ce changement de pronom personnel est frappant. Parce qu'il aurait très bien pu dire, ça aurait été même dans la logique du texte, Sion, roi de Hesbon et Og, roi de Bazan, sont sortis à votre rencontre, vous les avez battus pour vous combattre. Et vous les avez battus. Mais il dit nous. Et je vois là l'amour de Dieu et comment Dieu s'implique avec son peuple. C'est-à-dire que lorsque son peuple est attaqué, lorsque quelqu'un sort pour attaquer ses enfants ou son peuple, c'est lui qu'on touche. Et il va dire nous avons été attaqués. Et si vous sentez que il y a des choses qui sont, que pour certaines raisons, vous êtes attaqué en tant que chrétienne, en tant que chrétien, parce que vous êtes chrétien, parce que vous êtes fidèle à quelque chose qui vient de la parole de Dieu. Eh bien, sachez que Dieu ne dit pas tu as été attaqué, mais il dit nous avons été attaqués. Nous avons été attaqués et nous allons combattre et nous allons gagner. Et voilà quelque chose qui me frappe beaucoup et qui montre la nature de Dieu, combien Dieu aime son peuple et combien il se identifie à son peuple parce qu'il les considère comme ses enfants, il voit l'identité qui est la sienne, il la voit dans ses enfants, n'est-ce pas? Alors c'est merveilleux, mais le problème probablement, et ce que Thiago disait tout à l'heure aussi, c'est similaire à quelque chose que disait Thiago tout à l'heure, nous sommes trop facilement à dire que nous sommes ses enfants. C'est-à-dire que nous prenons cette identité trop facilement. Et vous savez que c'est grave de prendre l'identité, une identité qu'on n'a pas. C'est très grave. Et pour pouvoir dire je suis un enfant de Dieu, pour pouvoir dire je suis fille ou fils de Dieu, eh bien, on doit avoir reçu de Dieu l'identité, on doit avoir reçu de Dieu la nature de Dieu. C'est ça qui fait l'identité de Dieu en nous, c'est le fait d'avoir reçu sa nature. C'est-à-dire qu'on doit avoir les mêmes caractéristiques que Dieu dans nos comportements de tous les jours. Et c'est ça qui fait que nous sommes son peuple, nous sommes considérés comme son peuple, maintenant dans la Nouvelle Alliance. Et j'aimerais, à la lumière de ça, prendre à partir du verset 16, donc Deutéronome 29, à partir du verset 16, et mon message aura trois points, qui sont trois choses que Dieu rappelle à son peuple et exhorte son peuple à faire. Au verset 16, « Vous savez de quelle manière nous avons habité dans le pays d'Égypte et comment nous avons passé au milieu des nations que vous avez traversées. Vous avez vu leurs abominations et leurs idoles, le bois et la pierre, l'argent et l'or qui sont chez elles. Qu'il n'y ait parmi vous ni homme, ni femme, ni famille, ni tribu dont le cœur se détourne aujourd'hui de l'Éternel notre Dieu pour aller servir les dieux de ces nations-là. » C'est le premier point. Qu'il n'y ait ni homme ni femme, je vais raccourcir la phrase, ni homme ni femme, dont le cœur se détourne aujourd'hui de l'Éternel notre Dieu pour aller servir les dieux de ces nations-là. Évidemment, on peut tout de suite zapper ce passage-là en disant, bon, moi j'ai pas d'idole chez moi. Vous pouvez venir voir sur ma cheminée, il n'y a aucune idole. Dans ma chambre, il n'y a pas d'idole, il n'y a pas ces statues, ces choses abominables que les peuples, les païens avaient. Alors c'est vrai que dans certaines cultures, il y a encore des idoles. Dans notre culture occidentale, des idoles en bois et en pierre, ou en or, en argent. Dans nos cultures, évidemment, il y a d'autres choses qui correspondent à des idoles. Et vous devez savoir si dans votre vie, il n'y a pas quelque chose dans lequel vous vous confiez. Et ça va plus que ça. Parce que ce n'est pas seulement une histoire de confiance, mais on va commencer par cela. Les idoles, c'était des objets dans lesquels ils se confiaient. Et vous savez que l'homme, on peut l'expliquer facilement par le conditionnement, l'homme, et comme les animaux d'ailleurs, sont superstitieux. Il n'y a pas de culture non superstitieuse. Les hommes et les animaux sont superstitieux. Si un objet se trouve par hasard sur nous et qu'il nous arrive quelque chose d'extraordinaire, positif, eh bien, on va avoir tendance à attribuer à la présence de cet objet le fait qu'on ait eu cette chose extraordinaire qui nous soit arrivée. De même, si un malheur nous arrive alors que nous avions avec nous un objet, eh bien, on a tendance immédiatement à se demander ou à attribuer ce malheur à la présence de cet objet éventuellement. Vous savez, il y a les étudiants, aussi scientifiques qu'ils puissent être, aussi rationnels qu'ils puissent être, eh bien, s'ils ont pris un chemin particulier pour aller à l'examen un jour et qu'ils ont réussi cet examen de manière surprenante, ils n'avaient pas beaucoup révisé, et paf, ça marchait. Eh bien, la prochaine fois qu'ils ont un examen, ils ont envie de prendre, il y a quelque chose qui les pousse à prendre ce même chemin. C'est frappant, n'est-ce pas? Mais ils ne sont pas superstitieux du tout, ils vous diront. Mais bien sûr, il y a cette tendance, n'est-ce pas, à croire que c'est attribué à... qu'on doit attribuer notre protection, notre sécurité, notre bien-être à certaines choses, n'est-ce pas? Mais même dans le cercle des chrétiens, n'est-ce pas? On peut tomber, on peut être dans un danger. Il faut faire attention, il ne faut pas non plus examiner tout et analyser tout et devenir très minutieux, avoir un microscope pour voir ce qu'on doit supprimer, ce qu'on ne doit pas supprimer. Mais on peut quelquefois avoir ce genre d'idole même avec la prière, n'est-ce pas? On peut développer une sorte de superstition liée à la prière. C'est-à-dire que Si je dois partir faire la route, par exemple, et c'est une bonne habitude de prier, n'est-ce pas? Ce n'est pas une mauvaise habitude du tout, c'est une bonne habitude de prier, par exemple, avant un voyage, avant quelque chose, de remettre au centre les mains du Seigneur. Mais on doit faire attention que cela ne prenne pas la place, ça ne devienne pas une idole. C'est-à-dire que là, il ne s'agit plus de quelque chose en pierre, en métal, donc c'est plus subtil. Il s'agit d'une prière, quelque chose qui est bien. Mais on peut arriver au point où s'il nous arrive quelque chose sur la route, on dit « c'est parce que je n'ai pas prié ». Et on est en train de dire que c'est dans notre œuvre, donc la prière, dans notre comportement de prière, que se trouvait la sécurité. Et Dieu ne nous bénit pas parce que nous prions. Dieu ne nous protège pas parce que nous prions. Il nous bénit, nous protège parce qu'il nous aime. Et s'il nous arrive des choses, c'est parce que dans son plan, que nous ne comprenons pas, c'est ainsi que sa volonté a décidé. C'est ainsi que dans son plan, il avait prévu que cela arrive. Et c'est à nous juste de réagir avec la nature et l'identité de Jésus-Christ et de Dieu. Mais on est souvent piégé. Moi, je me rappelle une époque de ma vie, de mon adolescence, où j'avais beaucoup de comportements superstitieux religieux que j'avais acquis par moi-même, que je faisais pour me protéger, pour que Dieu me protège, pour avoir la bénédiction de Dieu. Et ce n'est pas ça qui donne la bénédiction de Dieu. Dieu donne la bénédiction lorsqu'on l'aime, lorsqu'on le suit, lorsqu'on fait sa volonté et qu'on désire faire sa volonté. Si on cherche à faire sa volonté, si on dit « Seigneur, je veux la faire », eh bien, il nous montrera. Et ce n'est pas par des rituels, ce n'est pas par des comportements, ce n'est pas par des choses que l'on peut faire, que l'on est protégé. Vous savez, dans certaines religions, les orthodoxes particulièrement, et le catholicisme aussi, le signe de la croix peut être un comportement qui protège, n'est-ce pas, dans certaines situations. C'est pas un comportement superstitieux. Mais, surtout chez les orthodoxes, c'est très présent. Mais vous avez des comportements aussi dans les milieux protestants, dans les milieux évangéliques, qui remplacent cela, qui sont plus subtils, mais qui sont des comportements que l'on peut avoir et qui sont finalement de la superstition. En tout cas, Dieu ici est très clair. Il dit qu'il n'y ait personne, qu'il n'y ait ni homme ni femme qui se détourne de Dieu. Ce qui veut dire qu'il attend de son peuple que son peuple soit tourné vers Dieu. Tourné vers Dieu, les regards vers Dieu. Seigneur, je veux avoir les yeux fixés sur toi. Je sais que c'est ça la caractéristique d'un chrétien, d'un enfant de Dieu, c'est qu'il a les yeux constamment tournés vers son Père céleste. Constamment, pas le dimanche matin en disant « Je lève les yeux vers toi, Seigneur, je tourne mon cœur vers toi », mais tous les jours de sa vie, il est tourné vers toi en disant « Seigneur, je veux faire ta volonté. Je veux marcher comme ça te plaît et pas comme ça me plaît. » Et ici, Dieu dit que personne ne détourne son cœur. Ça veut dire que la position normale, c'est d'avoir le cœur tourné vers Dieu. C'est ça la position normale, d'avoir les regards fixés vers Dieu. Hébreux 11 nous dit que Moïse, dont il est question là, il avait les yeux fixés vers la rémunération qui est Christ. Il ne savait pas qui était Jésus-Christ. Je ne pense pas que Dieu lui avait révélé qu'un jour viendrait, révélé clairement, qu'un jour viendrait, Dieu viendrait sur terre sous une forme d'homme. Je ne pense pas qu'il avait conscience parfaite comme nous avons conscience de ça. Mais il avait les yeux fixés vers Dieu et vers Jésus-Christ sans le savoir. Et ça, c'est Hébreux 11 qui nous le dit, que parce qu'il avait la foi, il avait les yeux fixés. Et quelle est la caractéristique de Moïse qui est décrite dans Hébreux 11? Il nous est dit qu'il a préféré renoncer à la gloire terrestre. Il a renoncé à son statut, à son identité de fils de Pharaon. C'est quand même glorieux, n'est-ce pas? C'était quand même extraordinaire cet épisode où il fait rien, il ne fait pas exprès, quoi. Il est allongé dans son panier sur le Nil. Et puis voilà qu'il finit comme enfant adoptif de la fille de Pharaon. Il rentre dans les palais des rois comme ça, sans qu'il ait fait quoi que ce soit. Il y a des gens qui font tous leurs efforts, toute leur vie, et ça ne marche pas. Vous savez, il y a des gens qui disent, pourvu que je sois nommé ministre, pas ici, bien sûr, je suis sûr qu'il n'y a personne ici qui espère être ministre, mais il y a des gens qui espèrent tellement être ministre et sont déçus quand le nouveau président ne les a pas appelés. Ils ont leur portable là, prêt à répondre, et ils se font très surpris quand le président les appelle pour dire « j'ai pensé à vous pour tel poste ». Ah, vraiment, je n'attendais pas, mais ils avaient le portable après en disant « pourvu qu'il m'appelle, pourvu qu'il m'appelle, pourvu qu'il me choisisse ». Voilà. Mais Moïse, il n'a rien choisi du tout. Il était bébé et il a eu cette place extraordinaire, mais terrible, au fond chez l'ennemi. Et il a préféré renoncer à tous les avantages qu'il pouvait avoir. Il a préféré renoncer à ça. Mais si vous voulez, il n'a pas renoncé en disant « bon, je renonce pour Dieu, c'est dur, c'est pas évident ». Mais je le fais parce que je crois que c'est ça qui est mieux à faire. Ça, c'est quelqu'un qui n'a pas renoncé. Renoncer, ça ne veut pas dire perdre les avantages qu'on pouvait avoir dans le monde. Renoncer, c'est dire non avec un bon cœur. C'est se décharger du lien qui nous lie à ces avantages. C'est-à-dire de dire c'est coupé, c'est terminé, je n'en veux plus. Et la force, la puissance qui se dégage quand quelqu'un peut dire « je ne veux plus » de ces choses que le monde me donne, ces avantages que le monde me fait miroiter, ces plaisirs que le monde m'offre, je n'en veux plus et je suis heureux de ne plus en vouloir. Et c'est ça qui était dans le cœur de Moïse. Et il nous est dit dans Hébreux 11 tout simplement, c'est parce qu'il avait les yeux fixés sur la rémunération. C'est parce qu'il avait les yeux fixés sur Dieu, il avait compris que dans la nature de Dieu, il vaut mieux perdre tout sur la terre pour obéir à Dieu, parce qu'on reçoit une rémunération. On reçoit quelque chose à l'intérieur qui n'a pas de prix, que le monde ne peut pas donner. Le monde ne peut pas du tout donner la paix, ne peut pas donner cette satisfaction que Dieu donne, cette joie immense d'être libre, d'avoir une conscience pure. Combien j'avais des problèmes de conscience, pourtant ayant été élevé dans l'Église. J'ai eu toute mon enfance, à partir de l'âge où on commence à comprendre les choses. J'ai eu la conscience extrêmement troublée par la notion de péché, par le péché. Et le fait de savoir un jour que je pouvais être libéré, que je pouvais être purifié et dégagé d'une mauvaise conscience, le cœur pur, eh bien c'est quelque chose qui n'a pas de prix. Et quelle est notre réaction? Vous savez qu'il faut penser à ça. Je sais que Daniel l'incite beaucoup et heureusement, parce que je pense que c'est évidemment ce qui va se passer. Quel sera, et vous devez réfléchir, il ne faut pas dire voilà, je vais réfléchir si ça vient, on n'y est pas encore, c'est vrai qu'on n'y est pas. On est encore loin de ça, de ce type de situation. Mais si on vous demande de renoncer à votre foi pour pouvoir juste avoir ce qui vous semble normal, la santé, la vie, une vie normale, quel sera notre choix? Quel sera mon choix? Est-ce qu'on aura les yeux tournés vers la rémunération au point de dire « je suis prêt à souffrir » Moïse, c'est ce qu'il a fait. Il aurait pu avoir une vie tranquille dans un palais. Il aurait pu faire la gloire de son père adoptif. Il aurait pu devenir chef. On aurait même pu lui conseiller de dire, voilà, si tu es influent, tu pourras justement penser à ton peuple et puis essayer d'influencer le gouvernement égyptien pour qu'il soit moins dur à l'égard. Eh bien non, il a préféré renoncer à ça parce qu'il ne voulait pas être souillé avec l'Égypte. Il ne voulait pas avoir de rapport, de relation. Il a préféré couper et obéir à Dieu. Et c'est ça, parce que son cœur était tourné vers Dieu. Toute sa vie, à l'âge de 80 ans, il a été appelé à amener le peuple dans le désert pendant 40 ans. Il est mort à 120 ans, mais pendant 40 ans, il était dans le désert. Et il a dû exercer une grande patience. C'était une vie très difficile par rapport à ce qu'il aurait pu avoir. Il avait les yeux tourné vers Dieu. C'est la position normale du chrétien. Si vous avez le sentiment que Dieu vous a amené à tourner les yeux vers lui, ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire, c'est quelque chose d'ordinaire dans la vie du chrétien. C'est quelque chose de normal. Une conséquence évidente, triviale, du fait que nous avons les yeux tournés vers Dieu, c'est que nous n'avons pas les yeux tournés vers autre chose. N'est-ce pas ? Dieu ne veut pas qu'on ait un œil qui regarde vers Dieu et un autre œil. C'est difficile, il y en a qui arrivent, enfin n'arrivent pas, non, ils arrivent à faire les yeux, les deux yeux qui convergent, mais c'est dur à faire un œil qui part par là, un œil qui part par là. D'accord ? Bon, eh bien Dieu veut qu'on ait les yeux tournés vers lui, il ne veut pas qu'on regarde d'autres choses. Et ça, c'était le cœur de Moïse qui avait renoncé. Mais une conséquence triviale, une interprétation triviale de ça, c'est de dire que Dieu ne veut pas que nous regardions à nous-mêmes. Et un signe de l'appartenance à Dieu, c'est qu'on ne regarde plus à soi-même. Qu'on n'est plus dans un état qui est naturel, qui est animalesque, n'est-ce pas, de regarder à soi-même. Tous les animaux regardent à eux-mêmes. Bien sûr, ça ne se voit pas beaucoup parce qu'ils ne parlent pas. Mais tous leurs comportements sont tournés vers la survie et vers l'adaptation. Et ils s'adaptent à un nouvel environnement parce qu'ils vont sélectionner dans l'environnement ce qui leur permet de survivre, ce qui leur permet d'augmenter les chances de bien-être et donc de survie. Et ils vont éviter les situations qui mettent leur corps en danger. Et c'est comme ça que les animaux vivent. C'est un mécanisme extraordinaire. Ce mécanisme a été instauré par Dieu. C'est un mécanisme qui leur permet effectivement de survivre. Mais vous savez qu'ils font ça parce que, je vais dire quelque chose de bizarre, ceux qui habitent leur corps, c'est eux-mêmes. Et en fait, ils font tout leur comportement pour que ce qui est en eux puisse vivre. Et ça, c'est un mécanisme que Dieu a mis dans les espèces. Il a mis ce mécanisme dans tous les animaux et chez les êtres humains. C'est merveilleux. C'est pour ça qu'il y a toujours des espèces sur la Terre. Mais ce qui caractérise le chrétien, c'est que ce n'est plus lui qui vit. C'est-à-dire que ce qui habite dans son corps, ce n'est plus lui-même. C'est l'Esprit de Dieu, c'est la présence de Dieu. De sorte que maintenant, il va faire ce qui fait vivre. Il va chercher les comportements qui font vivre ce qui est en lui, c'est-à-dire Jésus-Christ. N'est-ce pas ? L'apôtre Paul qui pouvait dire « Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Et donc, il va continuer à utiliser ce mécanisme. Mais ce mécanisme va servir maintenant à faire vivre celui qui est en lui, c'est-à-dire Jésus-Christ. Et c'est ça la différence entre un enfant de Dieu et quelqu'un qui ne l'est pas. C'est que les comportements sont chez quelqu'un qui ne l'est pas et sont destinés à faire vivre celui qui est en eux, c'est-à-dire eux-mêmes. Et le chrétien fait vivre celui qui est en lui, c'est-à-dire Jésus-Christ. Et c'est ça qui va faire que nous ne sommes plus préoccupés par nos propres problèmes, par nos déceptions, par les choses qui nous déçoivent autour de nous et principalement dans l'Église, les choses qui nous chagrinent, les choses qui nous vexent, qui nous ont blessés. Combien Dieu veut rendre libres les chrétiens en disant « Tu n'as plus à être blessé parce que tu n'es plus. » C'est Dieu qui habite en toi et donc tu n'es plus blessé. Tu ne peux pas être blessé. Quelqu'un qui est blessé n'est pas mort à lui-même, n'est-ce pas ? Parce qu'il est blessé. Seulement les vivants qui sont blessés. Les morts ne le sont jamais. Et donc, les réactions qu'on peut avoir quand on se sent mis de côté, c'est là où on voit que le moi n'est pas mort. C'est quand on est mis de côté, pourquoi je n'ai pas été choisi et pourquoi d'autres ont été choisis. Pourquoi on n'a pas pensé à moi. Pourquoi je n'ai pas la place que je devrais avoir. Mais quand on est chrétien, on ne dit pas « je m'en fiche ». De la planète. Mais on dit, on n'est pas troublé par ça parce que c'est Christ qui habite en nous. et on veut que ce soit Christ qui ait la place, que ce soit Christ qui soit manifesté. Et donc c'est ce premier point, et on voit que ici Dieu nous incite le peuple à ne pas se détourner de lui, mais à tourner, à garder les regards tournés toujours vers Dieu, vers Jésus-Christ. N'est-ce pas? Et ça, c'est ce premier point. J'allais parler des ismes, mais ça aurait été un peu bizarre peut-être. Mais vous savez que les religions on caractérise, disons, les mouvements par des ismes, c'est-à-dire le christianisme, le bouddhisme, l'hindouisme, le catholicisme, le protestantisme, qui indiquent là où les yeux sont tournés, vers laquelle doctrine les yeux sont tournés. Mais il y a une grande religion à laquelle l'Occident est attaché. C'est plus le catholicisme, c'est pas le protestantisme, ça l'a jamais été. C'est l'égoïsme. C'est cette religion du ego, de moi. Voilà, moi, je suis celui vers qui je veux tourner mes regards. Et les gens qui ont les yeux tournés vers eux-mêmes sont les plus malheureux de la terre. Vous prenez n'importe qui est égoïste, qui est tourné vers lui-même, vers son bien-être, vers ses petits soucis, vers ses petits malheurs. C'est quelqu'un qui est malheureux. Et il faut prier qu'il puisse connaître le vrai christianisme. Et le christianisme, ce n'est pas la définition qu'on donne classiquement ou que les médias donnent. Le christianisme, c'est ceux qui sont tournés vers Christ. N'est-ce pas? C'est ceux qui ont Jésus-Christ en eux et qui vivent pour Jésus-Christ. Donc ça, c'est le premier point. Voilà ce que Dieu demande. Ce que Dieu demande, c'est donc important si on veut lui plaire, n'est-ce pas? C'est important. Donc ça, c'était le verset 16 et 17 et 18. Ensuite, la fin du verset 18, c'est le deuxième point. Qu'il n'y ait point parmi vous de racines qui produisent du poison et de l'absinthe. C'est quand même étrange, ça. D'accord que Dieu dise qu'ils ne doivent pas se tourner vers les idoles, que c'est normal que Dieu incite son peuple à se rappeler des 10 commandements en disant « tu ne te feras pas d'image taillée » ou « tu ne te feras pas de représentation ». Les représentations ne sont pas seulement des images. C'était beaucoup des images. Mais c'est aussi les théories que vous avez, les représentations que vous avez de Dieu, les représentations que vous avez de ce qui est de la doctrine, n'est-ce pas, qui ne vient pas de la parole de Dieu, mais vos interprétations que vous présentez parfois comme étant la parole de Dieu, que l'on présente comme étant la parole de Dieu. Mais ici, il dit qu'il ne doit pas y avoir de racines qui produisent du poison et de l'absinthe. Alors évidemment, il s'agissait vraisemblablement de quelque chose de concret, mais évidemment qu'il y a toujours un sens spirituel. C'est-à-dire que probablement le peuple ne devait pas planter des choses qui pouvaient créer empoisonner un individu. Mais ici, bien sûr, ça a un sens spirituel évident, qui est repris dans Hébreux 12. On trouve énormément de choses dans Hébreux 12, c'est incroyable. Si jamais un jour on est persécuté, vous devez cacher la parole dans vos chaussettes ou je ne sais pas, dans vos vêtements, eh bien vous découpez, on peut vous dire facilement, il n'y a pas grand-chose qu'il faudrait découper de votre Bible et vous pouvez le cacher assez facilement. Mais le mieux de le cacher, c'est dans la tête, n'est-ce pas? C'est de l'apprendre par cœur. Hébreux 12 fait partie de ces passages courts qu'il faut connaître. L'absinthe et le poison, c'est quelque chose qui est dans le cœur des hommes et des femmes qui n'ont pas les regards tournés vers Jésus-Christ, qui ont les regards tournés vers eux-mêmes. Il y a de l'absinthe et du poison. L'absinthe, c'est ce qu'il y a de plus amer. Le poison, c'est ce qui fait du mal aux autres. Et le problème, souvent, pour chacun d'entre nous, c'est que dans le cœur, nous avons une déception. On est déçu de ceci ou de cela. On n'est pas content des circonstances de la vie. Et ça crée quelque chose, c'est une semence qui fait pousser quelque chose qui est de l'ordre de l'amertume. Alors, c'est aussi les paroles que l'on a entendues. Telle personne qui a dit quelque chose qui nous a fait mal. Et on dit, ça m'a vraiment déçu. Je ne pensais pas ça de cette personne-là. Franchement, je la voyais beaucoup plus haut. Et donc, ça crée de l'absinthe dans le cœur. Ça crée du poison. Le poison, ça empoisonne notre vie et ça empoisonne la vie des gens qui sont autour. Ça empoisonne l'Église, potentiellement, si ça pouvait faire son effet. L'absinthe, c'est l'amertume, et n'est-ce pas l'expression du visage, les paroles qui sortent dans telles circonstances, quand on a un échec, qu'est-ce qui est dit, qu'est-ce qui sort de la bouche? Est-ce que c'est quelque chose qui est de l'ordre de la soumission, en disant « Seigneur, c'est toi qui sais, c'est dur pour moi à vivre ce que je vis, mais c'est toi qui sais. » Ou est-ce que c'est de l'amertume qui sort? Et en regardant vers Dieu, il enlève ses racines d'amertume, de poison. Mais il demande aussi qu'on les enlève de nos vies. Dans Hébreux 12, il est dit qu'il n'y ait pas d'amertume, qui sème le trouble, n'est-ce pas? Je vais vous donner exact, ne tournez pas, mais je ne voudrais pas mal citer ce passage qui est tellement important. Au verset de chapitre 12... Verset 15, « Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume, poussant des rejetons, ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. » On doit veiller à ce qu'il n'y ait pas du tout de critique les uns sur les autres, qu'il n'y ait pas de réaction négative, qu'on soit dans la bénédiction. Vous savez que si vous dites du bien à quelqu'un, vous le bénissez. Et c'est ce que Dieu demande. Si vous dites une parole d'encouragement à quelqu'un, vous le bénissez. Si vous dites quelque chose de négatif sur quelqu'un, pas forcément devant lui, mais même derrière lui, vous le maudissez. On n'utilise plus ce terme-là. Mais combien de fois par semaine vous maudissez telle et telle personne? Eh bien, c'est autant de fois que vous dites du mal sur cette personne. Vous êtes en train de la maudire. Parce que c'est dire du mal, maudire. Donc, utilisez les termes, on change les termes, n'est-ce pas? On dit quelquefois, on dit maintenant, je suis de mauvaise humeur. Mais qu'est-ce que c'est l'humeur? Qu'est-ce que c'est l'humeur? L'humeur, c'est quelque chose qui est invisible, qui est une force invisible, qui contrôle nos réactions et nos comportements et nos attitudes, n'est-ce pas? Ça va comme définition. Eh bien, ce mot, cette définition, correspond très bien à la définition de esprit. Donc si vous dites « je suis de mauvaise humeur, mais c'est comme ça, j'ai toujours été comme ça, ou il ne faut pas mettre de mauvaise humeur », vous êtes en train de dire « je suis de mauvais esprit ». Et ça fait réfléchir quand on met les vrais mots derrière ce qu'on vit. Et on doit réfléchir à ça. On doit voir à ce qu'on a les yeux tournés vers le Seigneur. Que Dieu nous aide tous à tourner les yeux vers le Seigneur et qu'il n'y ait pas ces productions de poison et d'amertume. Quel est le fruit? Vous voyez que ça, on a lu dans Hébreux 12 que ça pousse des rejetons. Ça porte du fruit. Les racines portent du fruit. Et celle-là, je vous assure qu'elle porte rapidement du fruit. C'est comme les mauvaises herbes dans les jardins. Ça va vite. On plante des choses bonnes et ça ne pousse pas. Ou difficilement, ou ça rate. D'accord? C'est rongé par les insectes ou quelque chose. Mais ça marche. Ça pousse. Et ça pousse très rapidement. Et c'est du fruit. Or, c'est le fruit de l'esprit que Dieu veut qu'on porte. Mais si vous avez ces racines-là dans la vie d'amertume, et il y a des gens qui ont des raisons qu'on peut tout à fait comprendre pour avoir de l'amertume. Il y a des gens qui ont vécu des choses injustes, inacceptables. Aucune personne sur la terre qui est de bonne foi pourrait dire que c'est supportable. Mais le Seigneur vous demande même à ces personnes-là. Mais il est bon, le Seigneur, et il va dire, nous avons été attaqués, et nous allons vaincre. Nous allons combattre, et nous allons vaincre. Nous allons déraciner ça de ta vie. Nous allons le faire. C'est-à-dire le Père, le Fils, le Saint-Esprit, et vous, vont le faire, une à une, ces racines, pour pouvoir avoir seulement le fruit de l'Esprit. Mais ça demande de le faire, ça demande de renoncer. Ça demande d'avoir les yeux fixés sur Dieu et sur Dieu seul en disant « Seigneur, je coupe avec ce que je pourrais avoir, les avantages que je pourrais avoir en revendiquant mes droits, en revendiquant la légitimité, mes droits dans cette affaire. Je suis prêt à y renoncer. Je suis prêt à dire c'est passé, c'est du passé, je pardonne totalement. Et je coupe totalement, et je cède totalement, et je n'ai plus rien à voir avec ça. Et c'est là que vient ce miracle de la résurrection, d'une vie nouvelle. C'est là où Dieu fait son œuvre d'une manière extraordinaire. Vous pouvez me dire, bien sûr, toi, tu n'as pas connu les choses les plus injustes, tu n'as pas connu des grandes épreuves dans ta vie. Et c'est juste. Donc c'est facile pour moi peut-être de le dire. Mais je sais que c'est la parole de Dieu. Et je sais que la parole de Dieu est vraie. Et je sais parce que des gens qui ont vécu cela ont témoigné que c'est quelque chose de merveilleux. Je sais qu'à une plus petite échelle, les choses auxquelles j'ai pu renoncer moi-même, eh bien, ça a été libérateur dans la vie. Et voilà, Dieu ne donne pas ses instructions pour rien. Il ne donne pas ça pour embêter. Il donne ça parce que c'est la clé, parce que c'est la solution. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, il est dit, c'est au verset 19 de Deutéronome 29, « Que personne, après avoir entendu les paroles de cette alliance contractée avec serment, ne se glorifie dans son cœur et ne dise « J'aurai la paix, quand même je suivrai les penchants de mon cœur et que j'ajouterai l'ivresse à la soif. » C'est le troisième point. Ici, il y a deux points dans ce troisième point. C'est que personne, après avoir entendu, après être rentré dans cette alliance avec Dieu, et vous savez vous-même le jour où vous êtes rentré dans cette alliance, eh bien, que personne ne se glorifie dans son cœur. Combien c'est un piège de se glorifier dans son cœur. Combien c'est un piège. Vous imaginez combien, quand vous avez les gens qui prêchent et puis il se trouve que ils ont plusieurs personnes qui se convertissent. Et quand les autres prêchent, il n'y a personne qui se convertit. Ouais, vous imaginez, vous prêchez pour la première fois, plusieurs personnes qui se convertissent. C'est dangereux, c'est même pas souhaitable. C'est pas souhaitable parce que c'est une épreuve, c'est dangereux. Parce que le problème, c'est de se glorifier. Et quelqu'un qui est vraiment dans la perspective de ce qu'on a vu avant, qui regarde vers Christ, qui fait tous ses comportements pour que Christ puisse vivre en lui, et non plus lui vivre en lui, comprenez ce que je veux dire, et non plus l'ego qui vit en lui, non plus le moi qui vit en lui, mais Christ, eh bien, il ne va pas se glorifier. Il ne va pas se glorifier, parce que se glorifier ferait ressusciter le moi. Et le principe d'échec pour un chrétien, c'est quand le moi qui a été quelquefois presque anéanti, il est laissé comme ça presque mort et il commence à ressusciter dans une situation. On se trouve dans des situations et puis on dit « Ouh, mais c'est pas mal, c'est probablement parce que moi je suis plus fidèle au Seigneur que les autres. J'ai reçu quelque chose de spécial et il faut dire que c'est vrai, si j'étais à la place de Dieu, je m'aurais choisi aussi. » Alors ça, c'est très mauvais signe, n'est-ce pas? Ça veut dire que le moi est en train de ressusciter. Le moi est en train de reprendre sa place, très subtilement. Et c'est un avertissement ici. C'est un avertissement que Dieu dit, que personne ne se glorifie dans son cœur. On ne doit pas chercher la gloire. On ne doit pas, même quand on voit... Vous savez que Jésus, quand il guérissait un malade, quand il guérissait les malades, souvent il disait « ne dis à personne ». Quand un évangélique voit un malade guéri, il écrit un bouquin là-dessus et il essaye de le faire publier par le plus de monde possible pour que les gens soient impressionnés. Il y a des églises qui mettent sur leur site qu'il y a des guérisons qui se produisent chez eux. Quand il y a quelque chose qui se passe lorsqu'on prie pour un malade, il y a une grâce particulière qui fait, lorsque Jésus est en nous, qu'il y a une voix qui dit « ne le dis à personne ». Ne le dis à personne. Si tu as été utilisé dans une situation, ne le dis à personne. Parce que c'est Jésus qui parle. Et Jésus disait, ne le dis à personne. Et c'est ça le cœur de Dieu, de ne pas se glorifier, de ne pas se mettre en avant, de ne pas chercher à ce que les gens disent, ouh, c'est un bon chrétien, c'est une bonne chrétienne. Mais qu'il y ait l'humilité, n'est-ce pas, qui nous fasse considérer les autres comme étant au-dessus de nous. Et quand il y a des choses grandes, peut-être que Dieu a permises au travers de nous, eh bien, qu'on ne cherche pas à ce que ce soit étalé, que ce soit dit et que ce soit su. Il dit que le cœur ne se glorifie pas au point de dire « j'aurai la paix quand même, je suivrai les penchants de mon cœur ». Et là, c'est cette résurrection du « moi » qui est un danger. Combien de gens ont connu des vraies expériences de Dieu, mais après ils ont laissé le moi revivre. Et quand on donne un témoignage, c'est bien effectivement de dire « Le Seigneur m'a sauvé il y a X années. Le Seigneur m'a sauvé quand j'avais, je ne sais pas, 18 ans, 19 ans, etc. ou 40 ans. » Mais c'est bien de pouvoir dire « Le Seigneur m'a sauvé ce matin. » Le Seigneur m'a sauvé aujourd'hui, il est en train de me sauver. C'est par la grâce que vous êtes ayant été sauvés. C'est ça qui est dit dans Éphésiens. La traduction, c'est par la grâce que vous êtes ayant été sauvés. C'est pas français, vous allez dire. Mais Dieu n'est pas français. Et quand Jésus dit avant qu'Abraham fût, je suis, c'est pas français non plus. Mais c'est parce que c'est la réalité. Comment voulez-vous mettre la dimension temporelle dans quelque chose qui est éternel? Comment voulez-vous insérer le temps dans quelque chose qui vient de l'éternel? Et c'est impossible à comprendre. Mais ça veut dire qu'on n'est pas seulement sauvé à un moment donné, on est aussi sauvé continuellement si on marche avec Dieu. Et le seul moyen d'être sauvé continuellement, c'est d'avoir les yeux tournés vers Dieu. C'est d'avoir les regards tournés vers la rémunération. C'est ça la foi, décrite dans Hébreux 11. C'est ça la foi, c'est de ne pas détourner le visage. Parce que si vous détournez, alors vous allez commencer à suivre les penchants de votre cœur, c'est-à-dire de moi, de votre ego. Vous allez commencer à vivre pour vous faire du bien, pour vous glorifier, pour vous exalter. Au lieu d'exalter Jésus-Christ, au lieu de glorifier Jésus-Christ, au lieu de vivre pour lui. Et c'est ça le danger qui guette quelqu'un qui ne est pas constamment ayant été sauvé. C'est-à-dire constamment dans un processus de salut qui se produit dans sa vie quotidiennement. Et quand un chrétien se lève pour un appel, dans certaines églises, ça fait bizarre. Pourquoi il s'est levé? C'est un appel à la conversion. Il est chrétien depuis 40 ans. Eh bien, c'est bien. Il se lève parce qu'il veut déclarer qu'il veut suivre le Seigneur. Quel est le mal à ça? Si un chrétien prie un dimanche matin, si un ancien prie en disant « Seigneur, sauve-moi », quel est le mal? Je me rappelle un prédicateur qui est venu, qui dit que c'est sa prière principale tous les matins. « Seigneur, sauve-moi ». Parce qu'on a besoin d'être sauvés. Et combien de drames dans les églises parce que les gens ont été sauvés il y a 40 ans. Et depuis, ils n'ont pas été sauvés. C'est le drame. Il faut que chaque jour, on tourne les regards. Que chaque jour, on aille voir dans le jardin de notre vie s'il y a des racines de poison et d'amertume, qu'on les enlève. Si vous en voyez pousser, vous les enlevez. Tout de suite. Et vous regardez vers le Christ, vous regardez vers la rémunération, vous regardez vers Jésus-Christ. Et s'il est en vous, vous allez vivre pour qu'il soit élevé, encore une fois, comme disait Jean-Baptiste, il faut qu'il croisse et que je diminue. Il faut que le moi diminue pour que lui puisse croître. Amen.